c'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.
Allier musique et philo, c'est possible pour l'artiste régional Usmar, avec son podcast Beats and Politics. En plus de la chanson et du spectacle jeune public, Usmar veut rendre la philosophie accessible à toutes et à tous à travers ce podcast musical. J'ai pu échanger avec lui par téléphone le 11 mars.
Usmar, c'est mon nom d'artiste. Ça fait 15 ans que je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai commencé dans les musiques actuelles en sortant des disques, en faisant des concerts. Et puis doucement, je me suis... parallèlement plutôt, je me suis orienté aussi dans le spectacle vivant en faisant des musiques de spectacle, que ce soit sur scène ou en studio. Et donc aujourd'hui, je n'évolue plus que dans le spectacle vivant. Toujours des musiques de spectacle et aussi en faisant des projets où ça démarre d'abord par la scène et puis après il y a des disques. Mais je suis un peu moins dans les musiques actuelles, on va dire.
Oui, notamment, on a pu te voir avec Tony Melville, hein, c'est ça, le spectacle Jeune Public. Et ouais, là, on va parler aussi d'un podcast musical, puisque c'est déjà la deuxième saison que tu fais Beats et Politics. Tu peux nous rappeler, nous expliquer comment ça a commencé, cette aventure de podcast musical?
Alors, ça a commencé en fait en 2015, justement, entre deux périodes de tournée. J'avais envie de mettre à profit le temps que j'ai à la maison, dans mon studio, parce que moi j'aime autant la scène que le studio, et j'ai beaucoup de machines et j'aime bien bidouiller. Il y a toujours ce temps d'exploration des machines. Et donc j'avais envie de mettre ce temps à profit pour proposer un projet où la pensée serait mise à l'honneur. Et donc je faisais des musiques instrumentales. J'avais envie de mettre en avant des intellectuels, on va dire ça, que ce soit des politiques, des économistes, des écrivains, des philosophes, et de prendre leurs paroles, donc de les mettre en musique. Et d'abord, ça a été lancé uniquement sur YouTube. En 2015, donc j'ai fait 7 épisodes, et j'ai relancé ça cette année, en 2020, donc avec une deuxième saison. En fait, il n'y avait pas vraiment de logique de saison, mais le fait de relancer ça, je me suis dit, bah tiens, finalement, il y a une première saison et là, je lance une deuxième saison, donc depuis le mois de novembre. Et là, c'est très orienté sur la philosophie. Pour moi, la philosophie, c'est aussi un peu de la politique, donc ça reste, d'où le nom de ce podcast, Beats, avec les rythmiques et une approche très hip-hop, électronique de la musique, et politique au sens politique noble du terme, la vie dans la cité.
Alors, ça dure entre 3 et 5 minutes. Comment tu choisis le philosophe, l'intellectuel, comment ça vient aussi l'inspiration autour de ces paroles?
Alors d'abord, c'est beaucoup quand même de recherches sur YouTube ou d'autres podcasts où j'écoute des émissions de philosophie, d'anciennes émissions de télé. Il y avait Ce soir ou jamais, il y avait notre émission qui s'appelait Les grandes questions. Et en me baladant sur YouTube, il y a des discours qui m'interpellent, qui me plaisent, et du coup, je les capture. Après, souvent, c'est par rapport à ce qui se dégage de ce discours, de l'orateur, de l'oratrice, que la musique vient. C'est souvent comme ça, ou des fois, c'est vrai que ça arrive aussi, où j'ai des instrumentaux, et je vais essayer de trouver comment les paroles vont, la voix de l'orateur, de l'oratrice, vont s'intégrer dans la musique.
Oui, puisque les paroles sont découpées, répétées, il y a pas mal de travail, de choix à ce moment-là aussi, par rapport à tout un discours, de pouvoir résumer, entre guillemets, entre 3 et 5 minutes à chaque fois.
Oui, parce que des fois, c'est par exemple, ça va être un philosophe qui va parler dans une émission et sa parole va peut-être être entrecoupée parce qu'il y a d'autres orateurs ou il y a les questions de l'intervieweur. Donc, j'essaye de condenser... il y a de plus important et ce que j'ai envie de mettre en avant. Il ne faut pas que ça dure longtemps, parce que l'idée, c'est vraiment d'être une introduction à une pensée ou à un concept philosophique ou présenter un auteur. Donc, il faut que ce soit court et que ça donne envie d'aller plus loin. C'est vraiment une introduction, ça ne veut pas être quelque chose qui va se substituer à un livre. C'est vu comme une introduction pour après aller plus loin. Et mis en musique, parce que l'idée, c'est quand même aussi de toucher peut-être des personnes qui se disent « Oh là, la philosophie, ce n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. » Mais que peut-être, avec l'approche musicale, on va écouter autrement et on va se dire bah, « Tiens, c'est intéressant ce que cette personne raconte. » Comment je peux développer et comment je peux en savoir plus. C'est pour ça qu'à chaque épisode, il y a la bibliographie, il y a les sources de où a été capté le discours, on peut aller écouter du coup la source, et si on veut vraiment en savoir plus, et ben on peut acheter le bouquin.
Oui, il y a un livre associé, c'est ça, avec ce podcast ?
Oui, il y a toujours un livre associé, enfin un ou deux livres associés par rapport à la thématique qui est développée dans le podcast.
La puce à l'oreille.
J'aime assez cette idée que les concepts ne flottent pas dans l'air comme des espèces de bulles de savon que l'on peut essayer de décrire ou d'attraper, mais qu'ils s'inscrivent de façon très, très profonde, qu'ils s'enracinent même dans l'histoire, c'est-à-dire dans des sociétés et dans des temps donnés. Et que donc, il y a certains concepts, certaines idées, dont il est intéressant de voir qu'on ne pouvait pas les penser avant tel événement, avant telle auteur, avant tel autre concept qui a permis d'en penser un suivant. Les femmes ont non seulement été niées, alors en tant que sujet de droit, en tant que sujet impliqué dans la cité, en tant que sujet de connaissance, mais aussi en tant qu'objet philosophique, c'est-à-dire objet de pensée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas penser cette question des femmes tant que les femmes elles-mêmes n'étaient pas considérées comme des individus. Tant qu'elles étaient ramenées et réduites à leur nature procréatrice et donc enfermées en quelque sorte dans la sphère des nécessités, de la matérialité, de l'immanence, tout ce qui, d'une certaine façon, ne relève pas de la pensée. En tout cas, dans l'histoire traditionnelle, d'un certain point de vue, de la philosophie. Et c'est donc, je crois, à partir du moment où les femmes, par le combat féministe, ont conquis cette position de sujet, que du coup, elles sont devenues aussi des objets de pensée. L'objet de pensée, c'est précisément d'essayer de trouver une nouvelle façon d'analyser cette question des femmes en tant que sujet dans nos sociétés de l'émancipation. Et je crois que ce que ça impose notamment, c'est de se débarrasser d'un certain nombre de schémas conceptuels dont on a du mal encore aujourd'hui, je trouve, à se débarrasser. Cette obsession binaire de la pensée occidentale, je crois qu'on est aujourd'hui en quelque sorte sommé de la bousculer, et notamment pour cette question des femmes, du féminin, du féminisme. Et ce que j'aime faire, enfin ce que je m'efforce de faire, c'est précisément de me dire qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui qu'être dans une société en tant que sujet de droit, dans un corps sexué féminin. Et donc ce qui me paraît intéressant, c'est d'articuler en fait des objets de pensée qui jusqu'à présent avaient été en quelque sorte séparés les uns des autres.
C'était La pensée féministe avec Camille Froidevaux-Métry, podcast musical Beats and Politics du SMAR, dont il parlait d'ailleurs juste avant. Et on continue de s'entretenir avec lui de ce podcast qui fait la part belle à la philosophie.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé.
Et est-ce que tu as déjà eu des retours de philosophes, d'intellectuels qui seraient tombés aussi sur ton podcast ?
Alors oui, c'est arrivé là récemment avec donc Camille Froide-Vaumétrie, qui est donc une philosophe. Tout son travail est basé sur la pensée féministe. Donc il y a certains philosophes qui sont pas du tout sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook, et d'autres oui. Alors à chaque fois que je sors un épisode, un petit peu avant, j'essaye de contacter ou d'envoyer le lien en disant bah, j'ai fait un travail, vous êtes concerné. Donc je le fais en amont de la sortie quand même pour les prévenir. Cette personne, la Camille Froide-Vaumétrie, m'a répondu en disant qu'elle avait trouvé ça hyper intéressant. Enfin, pour elle, que c'était un peu un ovni. En plus d'entendre sa voix mise en musique, ça l'avait interpellée. Et du coup, elle avait aussi de son côté relayé sur les réseaux l'épisode en question. Enfin, si, là aussi, je viens de le faire avec Cynthia Fleury, et qui a aussi à relayer sur Twitter. Elle a retweeté les tweets. Mais d'autres ne le font pas. Après, on ne sait jamais, est-ce que c'est vraiment les philosophes en question qui gèrent leur réseau ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, c'est un peu obscur en fait.
Alors pour cette deuxième saison, tu le disais, c'est plus philosophique. Est-ce qu'on peut parler aussi même de pensée positive? Je pense à il y a l'espoir, Spinoza et la joie, l'amour. Tu as voulu donner quoi comme idée, comme pensée aussi pour cette deuxième saison?
C'est vrai que j'ai pas envie de traiter de choses négatives. Je crois que le monde qui nous entoure en ce moment est déjà quand même suffisamment difficile. Après, pour moi, la philosophie, c'est un peu un refuge. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a tellement aussi de. On sent une crispation, ce qu'on appelle aussi une polarité du système de pensée. Tout est ou noir ou blanc. La philosophie, elle invite, en tout cas, à prendre un peu de distance et à réfléchir, à faire marcher son raisonnement et sa raison, et ne pas être toujours dans l'émotion. Donc ça, c'est un peu vraiment l'idée de ce podcast, c'est d'inviter à prendre du recul. Après, il y a quand même une pierre angulaire dans ce projet, c'est un philosophe que je suis depuis 20 ans et qui m'a fait découvrir énormément de concepts et d'autres philosophes. Donc, ce philosophe en question, c'est un contemporain qui s'appelle André Comte-Sconville. Et il est un peu à l'origine pas forcément de ce projet, mais c'est pour ça que c'est lui aussi le premier épisode, sur l'espoir. Mais il a une autre vision de l'espoir comme on l'entend. Habituellement, on dit souvent l'espoir fait vivre, mais lui, il rajoute l'espoir fait vivre, mais fait vivre mal. Donc, je ne vais pas développer ici ce concept, mais. Du coup, je vous invite à écouter le premier épisode pour comprendre ce qu'il veut dire. Mais en tout cas, en allant chercher justement donc des interviews d'André Comte-Sponville, ça m'a toujours fait découvrir soit d'autres philosophes et d'autres pensées. Donc, il est un peu le lien qui m'amène à découvrir d'autres choses. Mais c'est lui qui m'a fait découvrir Spinoza, Épicure, Montaigne, Nietzsche, et j'en passe. Enfin, voilà.
Et il y a aussi des illustrations graphiques à chaque fois avec Keylab, c'est ça?
Oui, c'est pas uniquement un projet musical. En fait, quand j'avais pensé à créer ce projet, je me suis dit qu'il faut aussi qu'il y ait une approche visuelle et graphique forte. Et donc, je me suis vite associé. Enfin, je connais beaucoup de graphistes parce que j'ai fait des études de communication, tout ça, et que je suis aussi assez sensible au graphisme, au visuel. Et Keylab était assez réceptif à ce projet-là, aussi quelqu'un qui est très engagé, enfin, pas engagé, mais qui a une vision politique, on va dire, et qui est là aussi dans la transmission avec comment transmettre aux jeunes générations. Donc ça l'a branché direct et c'est une collaboration. Il a vraiment carte blanche, c'est lui qui a designé, pas designé, parce que qui s'occupe tout l'aspect graphique, de la charte graphique du podcast. Donc c'est lui qui fait les visuels, c'est lui qui a géré tout cet aspect, parce que évidemment aujourd'hui c'est hyper important, même sur les réseaux, d'avoir une identité forte.
Radio Scarpe 100C, la puce à l'oreille.
Pourquoi est-ce que nos désirs sont si souvent insatisfaits? Parce qu'on désire autre chose que ce qui est. Parce qu'on désire autre chose que ce qui est. Pourquoi parce que nos désirs sont si souvent insatisfaits. Satisfaits. Parce qu'on désire autre chose que ce qui est. Désirer ce qui n'est pas s'appelle espérer, donc craindre. Désirer ce qui est, ça s'appelle vouloir. Désirer ce qui est, c'est aussi aimer. Je désire quelque chose qui n'existe pas, parce que je le désire pour demain, ce qui a deux inconvénients. Premier inconvénient, je ne suis pas satisfait. Je serai peut-être satisfait demain, mais aujourd'hui je ne le suis pas, parce que ce que je désire n'a pas encore eu lieu. Deuxième inconvénient, plus lourd, je vis dans la crainte. Parce que comme l'a dit Spinoza, là encore, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Là où je désire quelque chose qui n'est pas réel, je finis par perturber le seul réel effectif qui est le présent. Pourquoi est-ce que nos désirs sont si souvent insatisfaits? Parce qu'on désire autre chose que ce qui est. Désirer ce qui n'est pas, ça s'appelle espérer, donc craindre. Désirer ce qui est, ça s'appelle vouloir. Désirer ce qui est, c'est aussi aimer. Le secret de la sagesse, au fond, c'est non pas de s'interdire d'espérer, l'espoir fait partie de la condition humaine, comme la crainte, mais c'est espérer un peu moins, agir et aimer un peu plus. Agir et aimer un peu plus. Désirer ce qui dépend de nous, donc le faire, logique de l'action. Désirer ce qui est, donc aimer, logique de l'amour.
L'espoir, à l'instant, avec la voix d'André Comte-Sponville dans le podcast musical Beats and Politics d'Usmar que nous avons aujourd'hui par téléphone.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Alors, concernant tes autres projets, notamment donc les spectacles jeunes publics, en ce moment, tout est à l'arrêt. Pour toi, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous rappeler déjà sur quel projet tu es en ce moment? Et puis, comment ça se passe du coup avec la crise sanitaire?
Donc là, oui, depuis 2018, on a créé un deuxième spectacle avec ce duo, la Tony Melville et Usmar. Donc, c'est un spectacle tout public à partir de 7 ans. Donc on avait joué déjà 110 fois, ce qui est vraiment... C'est un spectacle qui a beaucoup de succès dans toute la France. Et donc ça s'est arrêté en mars dernier. Je crois que depuis mars, là ça fait un an, on a joué 7 fois au lieu de 70. Bah oui, enfin voilà, on est à l'arrêt. Moi j'ai quand même eu la chance... durant cette période, d'avoir beaucoup de créations. Donc, je fais la musique, je conçois la musique, une composition originale pour des spectacles. Donc, j'avais 3 créations en cours pour des compagnies de la région. Donc, autant de la danse, de la marionnette ou du théâtre. Donc, j'ai quand même été occupé. Parce que là, du coup, c'est des résidences. Les résidences avaient quand même lieu. On pouvait aller travailler dans les salles. Et moi, j'ai tout le travail en studio qui pouvait continuer. De mars à décembre 2020, j'ai eu quand même ça qui m'a demandé pas mal de temps. Il y a eu aussi donc s'occuper de la sortie de Beats and Politics, parce qu'il y avait quand même un épisode par semaine. Et puis après, ça s'est un peu espacé. Il y a toute la communication qu'il faut faire autour. Et là, ça s'est un petit peu calmé. J'ai moins de créations. Donc on attend que les concerts reprennent. Mais en tout cas, je continue de composer, de m'enfermer dans mon studio, d'apprendre à toujours me servir, d'expérimenter avec les machines, des nouveaux synthés. C'est jamais fini, donc malgré tout, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Même si c'est vrai qu'il y a eu ça a été une période assez difficile pour le moral, je pense. Parce que tout d'un coup, de passer de énormément tourner à se retrouver du coup un peu enfermé chez soi, ou, enfin, de changer ses habitudes en fait, je pense que c'est ça qui a été le plus dur.
Et donc dans ton cas, est-ce que ça a plutôt boosté la créativité ou au contraire, c'était un peu difficile au départ d'être créatif aussi, surtout l'année dernière où on a subi des confinements assez stricts?
Ben, comme je te disais, il y a eu des... Oui, c'était vraiment une histoire de morale, de fluctuation du moral qui faisait que... Ça, il y a vraiment des jours où je me disais, allez, j'y vais, je compose. Et d'autres journées où j'avais vraiment pas le moral et l'envie de rien faire. En fait. Enfin, ça dépendait. C'était même des fois à l'intérieur d'une même journée où je sentais que j'étais à ramasser la petite cuillère et une heure après, ça allait mieux. C'était fluctuant. Là, je crois que ça va un petit peu mieux parce que je me fixe aussi d'autres projets où j'essaye de penser différemment et de pas me laisser emporter. Je crois que c'est tellement aussi lié parce qu'on lit, parce qu'on voit dans les médias que des fois, il faut peut-être aussi s'enfermer dans sa bulle et pas se laisser impacter, infecter par l'extérieur. Même si c'est aussi nécessaire de savoir ce qui se passe, hein, mais des fois, il faut se préserver, je pense.
Je pense que l'expérience de la joie, elle est extrêmement concrète et on peut cultiver un état d'esprit ou une disposition, un climat favorable qui permet à la joie d'émerger. Si on n'est pas attentif, aucune joie peut arriver. La joie vient de la présence, de l'attention à ce qu'on fait, à ce qu'on est, au monde. Si vous êtes attentif et présent par vos sens, une joie peut émerger. Quand on veut contrôler nos vies, on est déçu tout le temps parce que la vie n'est pas ce que nous voudrions. Elle n'est pas conforme à nos désirs. Le fait d'accepter la vie comme elle est et pas comme nous voudrions qu'elle soit, ça nous met dans la joie. La vie est un processus créatif permanent et que quand on est pris dans ce processus créatif, ça nous amène à la plus grande joie qui soit parce qu'on se dépasse. On a tous observé que lorsqu'on est devant des difficultés, qu'il y a un obstacle, lorsqu'on va plus loin et lorsqu'on dépasse la difficulté et qu'on arrive à faire ce qu'on voulait faire, on a une joie immense. Chaque individu soit dans la joie. Parce que s'il est dans la joie, il n'est plus dans les passions tristes que sont le besoin de domination, la jalousie, l'envie, le désir de dominer qui créent toutes les violences et toutes les guerres que nous connaissons dans le monde. Donc plus il y aura d'individus joyeux au sens spinoziste du terme, c'est-à-dire qui ont réussi à s'épanouir selon leur nature, moins vous aurez de malheur dans le monde.
Spinoza et la joie avec les paroles de Frédéric Lenoir dans le podcast Beats and Politics saison 2 du SMAR aujourd'hui dans la puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé et qui nous parle aussi de ses projets pour ces prochains mois.
Ben là, il y a une création pour du théâtre pour adultes qui a déjà commencé, où on a eu 15 premiers jours de création en février. Après, ça va reprendre en septembre pour une création février 2022. Il y a ça. Et puis là, je suis en train d'essayer de constituer un peu un catalogue d'instrumentaux pour proposer à des rappeurs, des chanteurs. Voilà, c'est comme si j'essayais peut-être de prendre un peu d'avance et de, comme je disais encore, d'expérimenter. Souvent, voilà, j'achète un synthé, et puis, enfin, peut-être comme plein de musiciens, on s'amuse au début, et puis après, on passe à autre chose. Et là, j'ai envie d'aller peut-être au fond, un peu plus au fond des choses. Donc, le fait de me dire, bah, allez, j'essaie quasiment de faire un morceau par jour. Et puis, ça me permet aussi de travailler, de continuer à travailler le mix, l'équilibre des sons, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans les logiciels, de continuer constamment à apprendre et de s'améliorer en attendant que d'autres projets arrivent. Et peut-être que là, en avril, on pressent que les salles vont réouvrir, ou sinon, il faudra attendre septembre.
Et pour avoir plus d'infos sur toi, pour les auditeurs auditrices, ils peuvent aller où, par exemple? Tu as un site internet?
Alors, j'ai un site internet, donc c'est usmar.net. On peut retrouver à peu près tout ce que j'ai fait, tous les disques, les collaborations, les musiques de spectacle. Puis après, évidemment, Instagram, Facebook, où il y a aussi toutes les infos. Après, je suis pas un hyperactif des réseaux. Je passe quand même plus de temps à travailler qu'à raconter ma vie sur les réseaux.
Oui, et du coup, pour ton podcast musical, là, on peut le retrouver où aussi? Sur quel support?
Oui, comme je disais, c'est vrai que j'expliquais qu'au départ, il était sur YouTube. Donc, il y a toujours une chaîne YouTube qui s'appelle Beats and Politics. Et après, il est disponible donc, sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast. Donc, c'est gratuit, on peut s'abonner. Et le fait de s'abonner fait qu'à chaque fois qu'un nouvel épisode sort, on reçoit une petite notification. Et on sait. Mais en général, c'est tous les jeudis. En ce moment, c'est plutôt tous les 15 jours. Il y en aura d'autres qui vont sortir au cours de l'année.
Et peut-être une troisième saison
Je vais continuer sur cette deuxième saison. Ça serait une troisième saison si vraiment si le fil rouge change. Mais là, j'ai quand même envie de continuer sur cet axe philosophique que je trouve très positif et qui, moi aussi, m'apporte et qui me fait du bien. Après, peut-être que l'année prochaine, avec les élections... Peut-être que je partirai sur une troisième saison un peu différente. Je sais pas, je me laisse un peu porter. On verra.
La culture, c'est l'identité d'un individu. Effectivement, des artistes sont venus, des grands artistes, hein, je parle pas de moi, ça va de soi, mais qui ont montré, plutôt que la laideur, la beauté du monde. Les marchands nous montrent la laideur du monde et nous transforment quelque part en consommateurs ce qu'on est de plus laid dans notre comportement social.
La puce à l'oreille.
Les beaux films, les grands bouquins, les Hugo, les Flaubert, les Balzac, le cinéma français de la grande époque des années 30, les musées, le Louvre, le plafond de la chapelle Sixtine, il y a des gens qui ont été là, Mozart, Bach, Beethoven. Que sais-je, il y a des gens qui ont été là pour dire on n'est pas que ça, on n'est pas que ce petit animal qui cherche qu'à boire, à manger, copuler, on est plus que ça, on est plus que ça. Vous écoutez certains morceaux de musique, je suis pas féru, je suis pas mélomane, mais il y a des morceaux de Mozart, par exemple, je vous dis il y a forcément autre chose que ce que je suis, quelque chose que je ne peux pas capter, que je peux pas voir, mais il y a forcément autre chose, parce que voilà, il y a tout d'un coup il y a un médium. C'est Mozart. Et pareil quand je dis Hugo, pareil quand je dis des tas de choses même plus récentes, plus contemporaines. Les films, j'en parle même pas. L'éducation est une énorme solution. Énorme. Aujourd'hui, vous éduquez les gamins différemment de ce qui se passe aujourd'hui. L'éducation classique, l'éducation dans la compétition, l'éducation dans la rivalité. Le fait de nous
noter les gamins, c'est une erreur de noter. Tout le monde aujourd'hui, les profs sont notés, ils notent les gamins, on note le taxi, on note l'hôtel, on vous note vous, enfin c'est quoi de bon con. Donc une éducation alternative, réfléchie, sensée, qui remet l'individu face à lui-même, qui lui apprend comment dire toutes ses émotions intérieures, bah, dans 20 ans vous avez une génération qui est différente. Un génie, il sait marcher tout seul, il sait parler tout seul, et puis on le met à l'école, et puis il devient un crétin quelque part. Et donc il y a un truc qui va pas dans le système, pas dans le système, pas dans le système. Quelle solution? Bah, la culture, et la culture, la meilleure façon de l'aborder, c'est l'école. Et une pédagogie moins compétitrice et qui fait plus appel à l'intelligence de l'enfant. Voilà. Je prends beaucoup à ça. Il y a une phrase de Laboury qui dit « L'intelligence se fout de la compétition ». Et c'est totalement vrai par rapport à ça, quoi. Et l'école nous met là-dedans, et donc forcément, dans la compétition, il y a un vainqueur, il y a beaucoup de vaincus, beaucoup de vaincus. Ceux qui veulent devenir instituteurs, deux types d'éducation, l'éducation classique pour rassurer les élites bourgeoises qui veulent un système élitiste, un peu absurde, parce que le meilleur c'est ce qui fait fondre la planète quelque part. Et proposons une éducation alternative, des écoles très très chouettes, de plus en plus en France, et qui amène des gamins différents. Et là dans 20 ans, vous avez des gamins qui raisonnent totalement différemment, y compris les gamins des élites. De mettre la religion à distance, de mettre la consommation à distance. J'ai vu des écoles où dans le cahier des charges, il fallait que 20% des effectifs soient des gamins handicapés. Il n'y a pas mieux pour apprendre à lutter contre les différences de voir qu'il y a un gamin qui n'est pas tout à fait pareil, mais la conscience est là, la conscience est là, la conscience est là, la conscience est là, la conscience est là. Quelle solution? Bah, la culture, et la culture, la meilleure façon de l'aborder, c'est l'école. Une pédagogie moins compétitrice et qui fait plus appel à l'intelligence de l'enfant. Voilà.
Pour terminer cette émission, on écoutait Culture et Éducation avec la voix, vous l'avez peut-être reconnue, d'Albert Dupontel du podcast musical Beats and Politics d'USMAR que nous avions aujourd'hui dans la puce à l'oreille. C'était une interview téléphonique enregistrée le 11 mars 2021. À bientôt dans la puce à l'oreille pour d'autres aventures dans la région.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de la mort. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.